Ce sont des parents qui se sentent investis d'une énorme mission, celle de l'éducation parfaite de leur enfant. Des parents très exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, mais aussi de leur progéniture, qu'ils auraient tendance à pressuriser au nom de leur bonheur. On appelle cela l'hyperparentalité, ça n'est pas une maladie, mais une tendance pédagogique qui peut être très perturbante. C'est le dossier de l'émission cet après-midi, avec mes invités et sans doute vos témoignages, sur la page de l'émission franceinter.fr. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui, de nouvelles découvertes autour de l'âge des comètes.
Oui, la matière organique des comètes plus vieille que le système solaire va peut-être nous permettre de résoudre un mystère vieux de 70 ans en astronomie. C'est ce que pense notre invitée, l'astrophysicienne Rosine Lallemand.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'hyperparentalité, ce sera donc le thème de notre dossier dans un instant avec mes invités, la journaliste Béatrice Caméraire et le psychopédagogue Bruno Humbeck. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bruno Humbeck, on les appelle donc les parents hélicoptères, les parents drones, entre autres, ces hyperparents, drôle de surnom.
Oui, mais souvent ils cumulent, hein. Ils sont à la fois hélicoptères, drones et ce qu'on va appeler curling aussi. Hein.
Curling, oui.
Des parents qui se mettent trop de pression, c'est un peu tous les parents. Donc ouais. C'est pas une race particulière de parents, c'est une tendance de toutes les formes de parentalité.
Béatrice Caméraire, chercher le bonheur de ses enfants à tout prix, c'est pas forcément la bonne idée?
Non, c'est pas forcément la bonne idée, mais c'est aussi le résultat de tout ce que la société met sur le dos des parents. Donc il y a plein de manières de regarder cette course.
Alors ben justement, pour tous ceux qui nous écoutent et qui peut-être se reconnaissent dans cette hyperparentalité, on va ouvrir le débat dans quelques minutes avec les messages sur le site de l'émission. Mais tout de suite, c'est la une. Et du nouveau donc au sujet de la composition des comètes aujourd'hui à la une de la science avec notre invitée que vous nous présentez, l'astrophysicienne Rosine Lallemand, Axel.
Vous êtes astrophysicienne Rosine Lallemand pour le laboratoire Galaxies, Étoiles, Physique et Instrumentation, le GEPI à l'Observatoire de Paris. Et aujourd'hui vous publiez un article qui propose d'utiliser les comètes pour résoudre un drôle de mystère en astronomie. On va y revenir. D'abord, expliquez-nous comment on est capable de dire aujourd'hui que la matière des comètes est plus vieille que celle du système solaire.
Alors bonjour.
Bonjour.
Il s'agit d'une retombée en fait de deux choses, la fabuleuse mission Rosetta que tout le monde a suivie, et puis en même temps de mesures de plus en plus massives et perfectionnées avec les grands télescopes avec lesquels on fait des grands relevés. En fait, ce qu'on a fait, c'est revisiter, si vous voulez, un problème qui est vieux, qui date de plusieurs décennies, à la lumière des résultats récents de Rosetta et de ses grands relevés.
Alors avant d'y venir, dites-nous d'abord de quoi on parle quand on parle de matière organique.
Alors, la matière organique, c'est tout ce qui est composé, ce qui compose le vivant, donc à base de carbone, hydrogène, enfin les atomes simples, azote, oxygène, etc.
Qu'on soit bien d'accord, c'est pas de la matière vivante.
Ah non, pas du tout, pas encore.
C'est la pré-matière vivante, comment on pourrait expliquer ça? Ce sont les briques qui vont précéder le vivant?
Ce sont les briques du vivant, oui, effectivement. D'ailleurs, il y a une frontière assez ténue entre les premiers acides aminés, ce sont des molécules qui sont des molécules organiques complexes, et c'est une frontière floue entre les deux domaines.
Alors, il y a 70 ans, les astrophysiciens ont découvert ce qu'on appelle des bandes diffuses interstellaires qui restent aujourd'hui inexpliquées. Et c'est à ces bandes que vous vous intéressez. Expliquez-nous un petit peu cette découverte-là.
Alors, en fait, moi je m'intéresse à ces bandes diffuses. Et on trouve un certain nombre de particularités avec ces mesures. Les grands relevés ont permis de montrer que leurs porteurs, qui sont donc toujours à ce jour non identifiés, à part une exception sur laquelle on peut revenir si on a le temps, mais ces molécules dont on sait que ce sont des molécules, de grosses molécules complexes et de type organique, on a montré que leurs signes de détection, qui sont ces fameuses bandes interstellaires diffuses, hein, qu'on voit sur la lumière de pratiquement toutes les étoiles lorsqu'elles sont situées derrière un nuage interstellaire, on voit ces bandes d'absorption, et leur intensité ne varie pas comme la densité, les colonnes de matière dans les nuages. Et ce qui se passe plus simplement, il y a une disparition en fait de ces espèces. Donc je les appelle les porteurs des nibs, une disparition de ces espèces au cœur des nuages. Alors ce qu'on dit en même temps, on s'aperçoit que lorsque ces espèces disparaissent, les lois de rougissement de la lumière des étoiles varient, et avec des caractéristiques qui montrent que les petits grains grossissent, qu'il y a apparition de petits grains interstellaires. Et donc on pense que les porteurs de ces nibs, ces grosses molécules, en fait disparaissent parce que tout simplement elles s'agglomèrent à la surface des grains. Elles constituent à l'enrichissement des grains, au grossissement des grains, grossissement qui est d'ailleurs observé, qui a été observé dans les nuages denses assez récemment. Les grains de matière interstellaire grossissent, les grains de poussière interstellaire grossissent au cœur des nuages, et en même temps, les porteurs de ces nibs disparaissent. Donc, le lien assez finalement simpliste, hein, logique, c'est que ces grosses molécules participent au grossissement des grains. Elles viennent faire des manteaux autour de ces grains. Voilà, pour les bandes diffuses.
C'est que cette matière interstellaire qui était inconnue, en s'agglomérant, constitue les comètes, c'est ça?
Voilà. Alors, on sait que les comètes sont en fait, le lien entre comètes et matière interstellaire, il est pas nouveau, hein, puisque les comètes sont formées en même temps que les systèmes stellaires, et donc sont des résidus de la formation des systèmes stellaires, et comme les étoiles naissent de contraction de nuages interstellaires, le lien est logique. Ce que a montré Rosetta, alors là maintenant je viens justement à la partie Rosetta, ce qu'a montré Rosetta, c'est que le scénario maintenant très favori pour la formation de comètes telles que Shuri, c'est une accrétion, une coagulation lente et légère, disons pas sans non violente, je dirais. C'est-à-dire que ça a été formé par agrégation successive de petits grains qui coagulent en plus gros grains et qui finissent à faire des gros morceaux, et lesquels gros morceaux finissent par faire des morceaux de comètes. D'ailleurs, l'étape ultime, c'est les deux gros morceaux de Shuri, vous avez vu la forme de Shuri, les deux gros morceaux qui se sont collés gentiment l'un à l'autre. Mais la nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de... Tout ça s'est fait gentiment, et que la matière... à ce moment-là, cette matière qui a formé les comètes a été un peu chauffée, probablement, bon, même certainement, pour évaporer des manteaux de glace, mais sans modifier le matériau des grains qui constitue la comète aujourd'hui.
Ce qui explique cette forme de cacahuète, hein, de Shuri, voilà, très, oui, particulière,
c'est ça,
hein, qu'on a en tête. Hein,
oui. C'est la l'étape finale, pour Shuri en tout cas, de cette agglomération lente, et qui est maintenant favorisé par les scénarios qui découlent de Rosetta, notamment par le fait qu'ils ont découvert des gaz très volatiles. Et s'il y avait eu, comme d'autres scénarios le prévoient, une espèce de grand bouillonnement, grand chauffage en même temps que la formation du Soleil, avec formation de gros objets, puis ensuite explosion de ces objets par collision et formation des fragments, ça c'est un des scénarios pour former les comètes. Dans ces scénarios-là, les gaz volatiles ont disparu. Donc ces scénarios-là ont du mal à être expliqués aujourd'hui, en tout cas pour Shuri. Pour Shuri, donc comme je disais, c'est l'agglomération lente de matériaux, et donc on a plus de chances de trouver derrière, dans des comètes telles que Shuri, on a plus de chances de retrouver ces grains, et à la périphérie de ces grains, des molécules complexes telles que celles qu'on pense être les responsables pour les fameuses DIB.
Quelle est la proportion de matière organique dans la composition de Shuri?
Alors, c'est énorme, c'est beaucoup. Ça, c'était une grosse surprise. C'est la deuxième grosse surprise. La première, c'est le scénario, comme je disais. La deuxième, c'est la 40% de matière organique. Oui. C'est plus que ce qui était imaginé par le par le passé.
Est-ce donc cette matière organique, Rosine Lallemand, on pourrait presque dire que c'est la mémoire du milieu interstellaire, parce qu'elle est plus vieille que notre système solaire,
alors,
justement.
Voilà, oui, bien sûr. Si elle est gardée telle qu'elle, effectivement, oui, elle est beaucoup plus vieille que le système solaire, oui.
Est-ce que cette nouveauté-là peut nous permettre de changer de façon quand on recherche la vie dans l'univers? Est-ce qu'on a envie de la chercher dans le milieu interstellaire, par exemple?
Oh, mais alors là, déjà, beaucoup de... Vous savez, il y a eu des progrès considérables en radioastronomie. Vous avez entendu parler de l'interféromètre Alma. Enfin, des molécules de plus en plus complexes sont découvertes dans le milieu interstellaire. Ça, il y a des avancées spectaculaires à ce sujet. Alors, ça reste encore des molécules avec un nombre d'atomes de carbone pour le moment. Je crois que les plus grosses, c'est 11 atomes de carbone. Alors que les fameuses dibes, on pense que ça va jusqu'à 100 ou même plus. C'est encore plus gros, quoi. C'est des super complexes, des molécules super complexes. Et ces fameuses dibes, justement, c'est même tellement complexe. Et il y a tellement de possibilités de molécules que ça fait c'est une des raisons pour lesquelles les identifications n'ont pas eu de succès n'ont pas produit encore de résultats parce que il est très difficile en laboratoire de fabriquer des molécules, bien qu'il y ait des gens qui fassent aujourd'hui des choses fantastiques, mais il faudrait pouvoir essayer toutes les formes de molécules. Et bon, c'est évidemment extrêmement difficile, étant donné le nombre énorme d'espèces qui peuvent se former.
Quand est-ce qu'on va ramener, Rosine Lallemand, pour terminer, parce que l'heure tourne malheureusement, mais quand est-ce qu'on va ramener un petit bout de comète sur Terre?
Alors, disons que, en tout cas, ce travail, c'est un peu un plaidoyer, justement, pour ce genre de choses.
Voilà.
Parce que c'est mieux que les astéroïdes, d'une certaine façon, parce que les astéroïdes ont été beaucoup plus chauffés et la matière n'a pas été gardée aussi intacte que dans les comètes, comme Chury. Et donc, évidemment, un retour d'échantillons cométaires apporterait certainement probablement beaucoup d'informations sur ces molécules qui, comme je disais, exaspèrent pas mal d'astronomes, parce que quand même ça fait 70 ans que des tentatives sont faites pour les identifier, on en voit des centaines et des centaines et des centaines, et on ne sait toujours pas ce que c'est. C'est quand même un peu agaçant.
Merci pour vos explications, en tout cas, Rosine Lallemand. Et puis, on se retrouve demain, Axel.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. L'arthrose du genou qui explose dans nos sociétés modernes sédentaires. Une équipe de chercheurs internationales a comparé 2500 squelettes pour moitié actuels, pour moitié vieux de 100 ans, pour tenter de déchiffrer cette épidémie d'arthrose. Eh bien, résultat, âge égal, nos ancêtres avaient deux fois moins de traces caractéristiques d'arthrose. Selon les chercheurs, les deux explications principales à cette observation sont l'augmentation du poids moyen et l'inactivité physique. En France, un tiers des personnes de plus de 65 ans est touché. Le Chili et les peuples indigènes de l'île de Pâques votent la création d'un sanctuaire maritime autour de l'île mythique. Cette zone protégée d'une surface de 720 000 km² devient la plus grande réserve d'Amérique latine et va permettre de protéger les nombreuses espèces de requins, de thon, d'espadons qui y vivent. Les côtes qui abritent aussi un récif corallien unique étaient menacées depuis plusieurs années par la surpêche et la hausse du tourisme dans la région. Seule la pêche artisanale pratiquée par les autochtones sera désormais autorisée dans les eaux sacrées qui entourent l'île de Pâques. Et puis, connues pour être de sacrées roublardes, les femelles coucous n'ont pas fini de nous surprendre. Cet oiseau parasite qui pond dans le nid des autres pour y faire élever ses petits intrigue les chercheurs. Ils avaient remarqué qu'au moment de l'imposture, les femelles coucous poussaient un cri puissant et répétitif. Chose plutôt surprenante, car en faisant du bruit, elles risquaient davantage d'être repérées. Eh bien, une étude menée par des chercheurs de Cambridge montre aujourd'hui que ce cri est en fait une imitation plutôt réussie du cri de l'épervier, un redoutable prédateur. La femelle coucou tente donc de faire diversion pour pondre ses œufs en effrayant les habitants du nid. Et l'hyperparentalité, c'est notre dossier dans un instant. Summer, 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 kiss me.
father's back slaps the surface of the pool. Pool killer, killer, pool, pool killer, kiss me.
Blood, Alt G.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et pour parler aujourd'hui de l'hyperparentalité, alors rassurez-vous, ce n'est pas une maladie, mais c'est un phénomène qui apparemment touche beaucoup de parents, quasiment tous, obsédés par le bonheur de leurs enfants. Et c'est donc le dossier de l'émission cet après-midi avec mes invités Béatrice Caméraire et Bruno Imbeck. Béatrice Caméraire, vous êtes journaliste indépendante, diplômée en sciences de l'éducation. Vous avez fondé les Vendredis Intello, une association de diffusion de la connaissance justement dans ces domaines de la parentalité et de l'éducation. Okay. Vous êtes mère de 5 enfants, donc vous savez de quoi vous parlez. Et vous avez publié « Comment éviter de se fâcher avec la terre entière en devenant parent » chez Belin. Bruno Imbeck, vous êtes psychopédagogue à l'université de Mons en Belgique, docteur en sciences de l'éducation, et donc vous publiez cet ouvrage « Et si nous laissions nos enfants respirer ?» C'est aux éditions de la Renaissance du livre, avec justement les illustrations de Maxime Berger. « Comment comprendre l'hyperparentalité pour mieux l'apprivoiser ?» Amis auditeurs et parents, je suis certain que vous avez des réactions, des questions qui vous interpellent pour réagir à ce dossier, mais vous pouvez nous rejoindre tout de suite sur franceinter.fr et sur le mot clé d'attaque. Alors Bruno Imbeck, donc on va pas parler d'une maladie, mais apparemment beaucoup de parents sont victimes d'hyperparentalité.
C'est une tendance normale.
Ouais. Mais ils viennent vous consulter pour ça ou pas?
Très souvent.
C'est
vrai? Ils viennent avec un autre symptôme, qui est un enfant qui irait mal, ou un parent victime d'une espèce de burn-out. Donc ouais. Le tableau typique, c'est l'adolescent goguenard, qui lui a l'air d'aller plutôt bien, entouré de deux parents qui, eux, sont en crise. Parce que la crise de l'adolescent, c'est d'abord celle du parent qui doit s'en préoccuper. Simplement parce que l'adolescence, c'est comme la levure, ça gonfle tout. Ouais. Parce que c'est simplement les mêmes problèmes que ceux qu'on avait avec l'enfant, mais qui vont prendre une proportion différente. Alors, la tendance à l'hyperparentalité, elle est finalement assez normale dans notre type de société, dans la mesure où on a décidé d'avoir des enfants. C'est le produit généralement d'une négociation, d'une décision concertée. C'est plus un heureux événement. Procréation assistée oblige. C'est devenu quelque chose qui est décidé, qui est quasiment programmé, désiré ou programmé. Et donc, on se sent responsable de la venue au monde de nos enfants. À partir de là, on va se mettre une pression particulière sur l'acte de la parentalité et on va vouloir mettre au monde des enfants heureux et destinés à être heureux jusqu'à la fin de notre vie.
Béatrice Caméraire, est-ce que cette première présentation vous convient? Je vous vois réagir, je vois des choses qui se passent sur votre visage.
Disons que des parents épuisés au bout du rouleau et qui culpabilisent pour un rien, oui, ça j'en vois énormément. Des mères qui se traitent de mères en carton parce qu'elles ont dû laisser pleurer leur enfant 5 minutes, qui ont toujours l'impression de mal faire, d'avoir tout fichu en l'air et ruiné la vie de leur enfant parce qu'elles se sont mises en colère. Enfin oui, ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit énormément. Après, c'est est-ce qu'on regarde depuis l'extérieur le parent en disant il a une pratique intense, ou est-ce qu'on regarde ça comme un parent sous pression et qui se retrouve comme le dernier maillon, la dernière chaîne de toute une société qui met une pression énorme sur l'éducation des enfants.
Oui, donc des parents sous pression et qui mettent la pression, parce que ça va dans les deux sens finalement.
L'enfant est mis sous pression, il est obligé d'être heureux, ce qui est très très compliqué pour confirmer ce parent. il y a trois symptômes majeurs de l'hyperparentalité. D'abord, ce qu'on appelle le parent hélicoptère. C'est-à-dire qu'il tourne autour de ses enfants. T'es où? Tu reviens quand? On a l'impression que quand l'enfant n'est plus sous nos yeux, eh bien, il risque de lui arriver quelque chose. Ce qui fait que, par exemple, un enfant au-delà de 300 mètres du périmètre de vue de ses parents.
C'est scientifiquement prouvé,
oui,
ça,
oui, les 300 mètres. Tout à fait. Ça crée de l'insécurité.
C'est
simplement
vrai.
Pour l'enfant, comme pour le parent. Il y a 10 ans, c'était 3 km. Il y a 30 ans, c'était 30 km. On allait dans le village voisin, on allait pêcher. Ça posait pas de problème. Maintenant, on est dans un schéma dans lequel, je prends toujours un exemple, c'est ceux qui habitent en Belgique connaissent très bien cette commune qui est Uccle, qui est une ville
assez bourgeoise. Il y a beaucoup de Français.
Assez bourgeoise. Ouais. Et il y avait une maman, première page, la dernière heure, voyait une maman avec un visage complètement effondré. Ils ont abandonné mes enfants en pleine jungle. C'était le titre qui barrait la dernière heure. J'achète le journal, hein. La jungle, les enfants, c'est assez dramatique. Et on se rend compte que ce sont deux enfants qui ont été déposés à 300 mètres de l'arrêt de bus. Et la maman vit ça comme quelque chose de terrifiant, un enfant de 10 ans et de 12 ans. Et les enfants ont complètement paniqué parce qu'eux aussi, ce qu'on appelle la bedroom culture, par exemple, qui est la culture de l'adolescent, qui, parce qu'on veut l'avoir sous nos yeux, on va lui mettre tout à sa disposition dans sa chambre, l'ordinateur, à manger, etc. Il va finir par vivre dans sa chambre pour répondre à l'injonction, soit autonome, visite, voit plein de choses, mais reste sous nos yeux quand même.
C'était le bois de la Cambre, c'est ça la fameuse jungle bruxelloise, bien connue de tous ceux qui vont faire un petit tour de votre capitale. Béatrice Caméraire.
Ouais, moi j'avais une... Pour rebondir justement sur cet exemple, moi j'avais une anecdote, c'est que l'année dernière, il y a eu... ça avait été relayé dans les médias, il y a eu un groupe d'enfants de 10 ans, c'était dans l'Ain, qui se promenaient, et qui ont été interpellés en fait par les forces de l'ordre, ramenés au commissariat en disant les enfants de 10 ans n'ont pas à être dehors. Et en fait, pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand le parent, finalement, décide de, pourquoi pas, va acheter du pain, va poster une lettre et récupère un peu de périmètre d'air, il y a quand même toute la société qui les rappelle à l'ordre en disant non, là, vous n'êtes pas des bons parents. Un parent ne laisse pas son enfant dehors.
Il faut
dehors.
Presque les mettre en laisse, alors, c'est les
ça,
enfants.
Il y a des puces électroniques, par exemple, qui sont vendues pour qu'on repère où se trouve l'enfant. Tout ça, ça répond à cette exigence de parents hélicoptères, qui est une des manières de se manifester de l'hyperparentalité. Le parent drone, si vous voulez, c'est un parent hélicoptère amélioré. C'est un parent qui tourne autour de son enfant pour lui donner toujours le meilleur.
Ouais.
Il faut la meilleure école, il faut le meilleur dessin animé, il faut
le meilleur club de sport.
Il faut que... Alors, le danger, c'est pas vouloir donner le meilleur, c'est vouloir qu'en réponse, l'enfant soit le meilleur. Ça met énormément de pression.
Ça fait partie des symptômes de nos sociétés modernes.
Bien sûr.
Quand on voit dans certaines cultures, dans plein de pays où les enfants partent, font des kilomètres à pied pour aller à l'école, par exemple.
Ça fait partie.
On a vraiment un rapport à ça qui est complètement déformé aujourd'hui.
Le type de famille, d'ailleurs, je l'explique dans le bouquin. En utilisant aussi des métaphores, l'arbre, la famille est organisée autour du tronc, le couple conjugal, le couple parental, ce qu'on appelle une famille nucléaire, qu'elle soit composée ou recomposée. D'autres familles, ça s'organise autour des racines, on utilise beaucoup plus les grands-parents, c'est eux qui déterminent un ensemble de décisions qui seront cruciales pour la famille. Et vous avez des familles, par exemple, en Afrique subsaharienne, où on travaille surtout sur la communauté.
C'est ça.
Et là, vous allez voir des marmailles d'enfants qui baladent dans... Il faut pas croire qu'ils sont... hors contrôle, mais ils sont contrôlés par l'intégralité du village. Tous les adultes se sentent investis de ce qui, dans nos sociétés, repose exclusivement sur le ou les parents qui constituent le tronc de l'acte éducatif.
Alors, Fanny Boyon, notre réalisatrice, a trouvé des symptômes de l'hyperparentalité, même chez les Simpsons. Écoutez.
Oh, notre petite danseuse de Broadway! Écoutez, je sais bien que j'ai dit que je voulais être danseuse, mais tu seras danseuse, chérie.
Qui va passer sa vie dans des beaux théâtres et pas dans une usine grignose? C'est la petite danseuse vedette et son papa.
Et tu es jolie comme un cœur.
Alors, trésor, qu'est-ce que t'allais dire juste avant qu'on te montre combien on est fiers de toi?
Oui, ma petite reine de Broadway. Qu'est-ce que tu allais dire après? Je voulais être danseuse, mais...
Oh, je crois que je serai jamais votre petite vedette de Broadway.
Détrompe-toi, chérie. Tu peux écrire une pièce déprimante qui fera un tabac à Broadway.
Hein? Tu crois?
Bien sûr. Ça pourrait être une histoire où des gens doivent renoncer à des choses.
Ouais, avec plein de gros mots et des gens à poil. Ça plaît bien, en général.
Oh, je vous adore.
Un peu d'hyperparentalité quand même dans chez les Simpsons.
C'est d'ailleurs tout à fait révélateur. Les Simpsons, c'est l'image de la famille postmoderne. Si vous voulez voir comment les familles ont évolué, vous observez la famille Ingalls, une petite maison dans la prairie.
Ah oui.
Ils sont devenus les Simpsons des années après. C'est-à-dire que c'est la même famille. La même famille, mais avec des exigences éducatives très différentes.
Oui.
On a un couple d'élection, ils se sont choisis l'un l'autre dans une société qui va plus rigidifier les institutions. On n'imagine pas les Ingalls se séparer, par contre les Simpsons un scoop aussi, ils vont se séparer à un moment donné dans la nouvelle saison. Mais les enfants prennent exactement les mêmes rôles dans les deux familles. Le premier enfant reproduit les exigences du monde social. Chez les Ingalls, vous avez l'enfant bien élevé, qui respecte les valeurs, Mary Ingalls. Chez les Simpson, vous avez le surdoué. Le surdoué, c'est celui qu'on attend tous. Mmh. Quelqu'un qui, évidemment, va rassurer tout le monde. Parce que si vous êtes surdoué, vous avez des opportunités de réussir qui sont beaucoup plus fortes. Et donc, Lisa Simpson, c'est la surdouée. Le deuxième, il est là pour mettre en cause le système éducatif. C'est Laura Ingalls, qui de temps en temps ment, qui de temps en temps triche, de temps en temps vole. C'est très culpabilisant de le faire avec un papa parfait comme Charlie Ingalls. Et on va le corriger en permanence. Chez les Simpsons, c'est Bart.
C'est le père.
C'est Bart, plutôt, qui est autour duquel le récit va tourner, qui inquiète, qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qui va devenir. Et le troisième, c'est l'enfant superfétatoire. Il est là uniquement scotché à la maman pour interroger le désir des parents d'avoir encore des enfants.
Béatrice Caméria, lecture intéressante, non ?
Des Simpsons, oui. Moi, ce que je trouve intéressant aussi avec ça, c'est que finalement, la famille Ingalls, c'était vraiment les parents parfaits, alors que les Simpsons n'apparaissent pas du tout comme des parents parfaits de
c'est
l'extérieur.
Vrai.
Voilà. Et que finalement, je trouve que ça donne aussi en miroir l'évolution de la manière dont les parents sentent. C'est-à-dire que sans doute qu'avant, les parents étaient plutôt sûrs d'eux et qu'aujourd'hui, on est un peu tous comme des Simpsons, on est là, on a l'impression d'être un peu médiocre et d'avoir des difficultés à s'en sortir.
Mais c'est pour ça que des espaces comme le vôtre sont indispensables pour soutenir la parentalité, parce que effectivement, quand on voit un épisode des Ingalls, vous avez un problème et vous avez Charles Ingalls qui coupe du bois et qui trouve une solution.
Unique.
Chez les Simpsons, vous n'avez qu'une seule scène rituelle. La seule scène rituelle, c'est au début de l'épisode, quand les Simpsons vont se regarder fonctionner en s'installant sur le divan, et vont produire ce qu'on appelle en pédagogie de la conscience réflexive. Ils vont dire qui est-on, que fait-on, et quel sens est-ce que tout ça peut avoir.
En tout cas, on voit que l'image du père en a pris un coup entre les Ingalls et les Simpsons.
Oui, clairement.
Mais parce que
c'est plus tout aussi, à fait la même chose.
Le gros problème serait d'avoir les exigences d'un Ingalls en étant un Simpson. Les exigences de perfection d'un Ingalls, c'est-à-dire un enfant parfaitement bien élevé, c'est envisageable. Un enfant parfaitement épanoui, ce qui est l'objectif de l'éducation actuelle, ça, c'est impossible à réaliser.
Il y a des messages pour vous sur franceinter.fr. Je vous les transmets dans un instant.
Tombé du ciel, à travers les nuages, quel représage pour un aiguilleur du ciel. Tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil. Tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle. Tombé du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel, tombé du sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard. Poison qui tue l'amour.
Tombée du ciel et Jacques Higelin sur Inter.
La tête au carré sur France Inter.
Est-ce que vous connaissiez l'hyperparentalité ? Eh bien, on en parle cet après-midi dans le dossier. C'est même l'objet d'un livre publié par l'un de mes invités, Bruno Humbeck. Et si nous laissions nos enfants respirer, aux éditions de la Renaissance du Livre. Et puis avec nous, Béatrice Kammerer, avec vos messages. Pascal nous envoie ce témoignage. Je me reconnais un peu dans la description de l'hyperparent, nous écrit-elle. Mes enfants ont aujourd'hui 25, 21 et 17 ans. Les deux aînés sont en études supérieures avec un cursus parfaitement linéaire. Le dernier s'est montré vite rétif à entrer dans le moule avec une phase de décrochage scolaire. Aujourd'hui, tout va bien, il est heureux. Ses deux aînés vont bien, mais montrent des signes d'anxiété de manière récurrente, à mettre trop la pression. On risque bien le contraire de ce que l'on recherchait, Bruno Humbeck.
Alors c'est parfaitement bien expliqué, notamment quand on a affaire à une fratrie. Hein. Il faut savoir que, c'est pour ça que j'ai pris la métaphore de l'arbre aussi, pour l'expliquer dans le livre. L'arbre, pour nourrir le tronc, va chercher la photosynthèse, l'explique bien, la lumière. Oui. Des enfants vont être lumineux. Certains vont être lumineux, d'autres vont être amenés à grandir un peu plus dans l'ombre. C'est plus compliqué pour eux, effectivement, parce qu'ils ont l'impression que ceux qui sont en train de prendre la lumière risquent d'obtenir la préférence. C'est terriblement anxiogène. Mm-hmm. La vraie question que les enfants se posent dans les familles actuellement, les familles, les fratries, c'est pas m'aimes-tu, c'est me préfères-tu. Et en quoi me préfères-tu ? Parce que cette forme d'individualisation de l'éducation fait que la préférence devient quelque chose de crucial. Parce que je suis investi de beaucoup d'attentes, je risque, par exemple, l'enfant surdoué, le problème n'est pas de diagnostiquer le surdon. Le problème, c'est que si je prétends que vous êtes surdoué, votre risque de décevoir est énorme. Mmh. Or, les enfants surdoués sont souvent des enfants qui sont essentiellement surstimulés dans les types d'intelligence qui vont être valorisés à l'école. Et donc, leur risque de décevoir est important, ce qu'elle explique avec une stratégie qui est un enfant qui va, que les arbres connaissent bien, les stratégies des propagules, on va se développer un tout petit peu à l'écart. On fait autre chose. On est un peu différent des autres. Et on grandit à l'ombre de cette pression-là, ce qui explique aussi que beaucoup d'enfants vont aller se réfugier dans des niches cognitives, par exemple les jeux vidéo, qui ne sont pas surinvestis par les parents. Ce sont des niches cognitives. Un enfant qui joue à un jeu vidéo n'est pas un enfant qui ne fait rien. C'est un enfant qui utilise son cerveau simplement dans des niches qui ne sont pas surinvestis.
Béatrice Kammerer, du point de vue justement des émotions, le fait de vouloir absolument développer du bonheur dans sa structure familiale, ça pose problème aussi pour les enfants, dans l'expression d'autre chose précisément que des sentiments positifs ?
Oui, oui, et puis dans le sentiment, enfin comment dire, dans l'idée aussi qu'on est obligé forcément de d'exprimer ça, de le témoigner, de rassurer son parent sur le fait que
tout va bien,
tout va bien, etc. Et puis finalement, on laisse pas beaucoup de place pour laisser un enfant qui va pas bien l'exprimer, la colère, la supporter sans qu'elle soit indésirable. Oui, oui, bon, il y a quand même de plus en plus de parents quand même qui s'intéressent à ça et qui vont vers le développement de ce qu'on appelle les compétences émotionnelles. Psycho-émotionnel. Mmh. Donc voilà, s'il y a quand même un petit peu d'intérêt actuellement pour ça.
Oui. François sur Facebook demande, est-ce que l'école à la maison ne relève pas de l'hyperparentalité ? Alors l'école à la maison, c'est un phénomène assez marginal encore quand même, non ?
Oui, oui, c'est ça. Il y a toujours une énorme disproportion entre le phénomène en lui-même qui concerne quelques milliers d'enfants
et les discussions autour.
Que ça implique. Alors c'est toujours la même chose. Hein. Est-ce que c'est pas assez des parents trop investis ? Alors c'est très drôle parce que les discours sont paradoxaux. À la fois on a peur finalement que les enfants soient pas assez instruits, alors on veut aller les contrôler à tout prix, comme si on était face à un risque de carence éducative. Et parallèlement, on dit oui, mais non, en fait, c'est des hyper-parents, ils sont beaucoup trop investis. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de trucs épidermiques que ça génère. Je ne suis pas sûre que les pédagogues soient encore tous très au clair là-dessus avec eux-mêmes.
Bruno, qu'est-ce que vous êtes au clair là-dessus ?
Oui, parce que l'école à la maison, ce n'est pas seulement l'école exclusivement à la maison, c'est aussi, par exemple, les devoirs scolaires. Et là, c'est un gros piège de l'hyper-parentalité, avec ce troisième symptôme dont on n'a pas encore parlé, qui est le parent curling. C'est-à-dire celui qui veut contrôler l'avenir. Il y a deux espaces où les parents deviennent complètement fous, les terrains de football.
Ah oui, ça c'est très drôle d'ailleurs, ce passage, parce qu'on voit tout de suite l'image.
Voilà, des parents qui deviennent fous.
Et qui expriment des émotions étranges, parfois.
Tout à fait. Et qui vont tétaniser leur enfant, parce qu'il y a un stress absolu qui est mis sur l'enfant, ce qui fait que dans certains clubs de foot en Belgique, par exemple, les parents sont interdits.
Hein,
de Liège ou Sporting de Charleroi.
On les interdit de stade.
Vous n'avez pas de parents, interdits, pour ne pas mettre de pression sur l'enfant.
Incroyable.
Et l'autre espace, celui-là beaucoup plus généralisé, ce sont les devoirs scolaires. Et on le sait que sur le plan pédagogique, c'est une vraie hérésie quand vous avez des parents qui vont adopter des contre-pédagogies, c'est-à-dire mettre de la pression. Vous savez que si vous devez réaliser une opération mathématique, il faudra que votre cerveau soit débarrassé d'anxiété. Sinon, la partie du cerveau paralysée par l'anxiété va vous empêcher de faire l'opération mathématique. Or, un parent qui s'énerve, un parent qui hurle sur son enfant, un hyper-parent, notamment, parce que alors, c'est pas du tout... l'intention est positive. C'est je veux qu'il me rassure en donnant très très vite des bonnes réponses. Et donc ils prennent un burin pour faire rentrer par exemple les opérations logiques dans la tête de l'enfant. Or on sait qu'une opération logique, ça vient par insight. Ce sont des petites zones cérébrales qui se touchent, qui se connectent, qui fait que l'enfant a compris. Le parent, et notamment l'enseignant quand il devient parent, est souvent le moins bien placé pour accompagner
son enfant. Moi ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est nul en maths égale faute des parents. Hein.
Non, mais... pas du tout justement. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment déculpabiliser les parents. L'hyperparentalité n'est pas un défaut, n'est pas une tare, n'est pas une maladie. Mm-hmm. C'est une tendance à vouloir en faire trop, à vouloir trop bien faire et à refuser, par exemple dans la pédagogie, de laisser du temps au temps. On sait que l'enfant finira par apprendre, par comprendre les mathématiques. Si vous mettez trop de pression sur l'acte d'apprentissage, à ce moment-là, vous faites de la contre-pédagogie.
Qu'est-ce que vous en dites, Béatrice Caméraire ?
Oui, c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'hyperparentalité, c'est un peu comme si les parents étaient restés entre deux eaux. C'est-à-dire que il y a cette espèce de d'individualisme très propre au XXe siècle. On fait attention à l'individu, à l'enfant, avec ses goûts propres, avec sa manière d'être propre. Ouais. Mais en même temps, on n'est pas complètement prêt à laisser tomber les enjeux des reproductions sociales. Donc, ok, développe tes goûts. Mais réussi quand même parce que moi, je suis pas prêt à lâcher, quoi.
Alors, c'est d'autant plus anxiogène qu'il faut le savoir, on est dans une société qui est dite du déclassement. Ça veut dire que 8 enfants sur 10 occuperont une place inférieure à celle de leurs parents. Mmh. Et s'ils veulent occuper la même position, ils doivent faire 3 ans d'études en plus, en moyenne. Donc, c'est une société dans laquelle on produit énormément d'anxiété. Le critère de réussite étant par exemple le développement socio-professionnel, l'école étant l'ascenseur, ça va créer énormément de tensions.
Il y a Céline qui nous envoie ce message. Je pense, dit-elle, que notre peur est en partie due à la violence de la société, au relais dans le détail par les médias d'affaires d'enlèvement, de pédophilie, des dangers d'Internet. On se dit que le pire peut arriver, qu'il est à notre porte.
Oui, vraiment, ça c'est quelque chose que
ça revient beaucoup dans le témoignage des parents.
Oui, mais puis surtout à toutes les étapes du développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle d'hyperparentalité, mais on pourrait aussi se dire qu'on est dans une société hyper éducative, hyper interventionniste, complètement omnubilé par le risque zéro. Dès la grossesse, on donne des listes de recommandations dingues à suivre.
Tout en disant, soyez détendus.
Mais voilà, évidemment. Mais c'est absolument, c'est complètement, c'est de la torture de dire ça. Les premiers temps de l'enfant, on leur dit, faites attention, peut-être qu'il se développe pas comme ci, faites comme ça, faites tel test, tel machin. Et au final, on arrive à un poids énorme à porter pour les parents à qui on dit, oh, vous pourriez lâcher prise quand même.
les tendances au curling, à l'hélicoptère et au drone sont nourries par la société. Un exemple assez classique, cette espèce de supercherie scientifique qui était l'effet Mozart. C'est-à-dire qu'on avait supposé que les enfants, lorsqu'ils entendaient Mozart avant la grossesse, allaient devenir plus intelligents. Résultat, on a vendu des tas de dispositifs, y compris pour mettre des...
C'est comme les tomates et les vaches, ça marche pas.
Ça marche pas du tout. Et donc, mais les familles qui entendent ça, les parents qui entendent ça, et qui se donnent pour obligation de donner le meilleur à leur enfant, évidemment qu'ils vont essayer de faire entendre Mozart le plus tôt possible et donc se retrouver avec un ventre équipé d'un écouteur.
Et avec un enfant qui ne sera pas un petit génie du piano.
Probablement pas.
Marjorie nous dit, trop drôle le parent hélicoptère, c'est moi. J'ai arrêté de travailler quand ma fille aînée est rentrée en 6e parce que je ne m'imaginais pas qu'elle puisse aller au collège seule. Encore aujourd'hui, j'ai du mal quand ma fille de 20 ans qui fait ses études loin ne m'envoie pas de message en rentrant de soirée. Je sais bien que c'est très égoïste et que j'essaie simplement de me protéger par ce comportement d'hyper-contrôle parce que j'ai peur de m'effondrer s'il leur arrivait du mal. C'est quand même fou cette anticipation du problème.
Voilà, tout à fait. Il y a un petit mot qu'elle a utilisé, l'auditrice, qui est indispensable, c'est trop drôle. Ça veut dire qu'on constate effectivement que les parents qui sont capables d'avoir un regard bienveillant sur eux-mêmes, c'est-à-dire amusés, parce qu'à l'origine, ça part de plein de bonnes intentions. Une intention de vouloir donner le meilleur, et puis les dérives, effectivement, lorsque ça produit de la souffrance. Et là, moi, je la constate très souvent, dans ce cas-ci, puisqu'on parle de trop drôle, on n'est sans doute pas dans la souffrance. Mais quand un parent implose, l'hypoparentalité naît de l'hyperparentalité. Des parents qui ont un retrait massif, on le voit parfois, notamment dans les milieux moins favorisés, où des parents se disent « moi, j'y arriverai pas, j'aurai jamais le meilleur, donc on arrête tout contrôle, on arrête de réclamer le meilleur et on ne fait plus de curling, on ne prépare plus rien. » Et donc, il faut savoir que ça peut aussi générer de la souffrance, y compris chez l'adolescent qui se vit comme décevant.
Béatrice Caméraire.
Il y a aussi la question du risque, c'est-à-dire la prise de risque. Moi, je vois plein de parents pour qui il est absolument insupportable d'imaginer qu'un enfant pourrait se couper le bout du doigt avec un couteau. Alors que ça fait aussi partie des découvertes de la vie, des expérimentations. Mais cette idée-là, ça fait que...
Le conseil du jour dans la carré. Laissez votre enfant se couper
mais
un bout du doigt. toi.
Bah, en tout cas, ce n'est pas un danger, mais, ouais. Mais oui, on a tous des bons souvenirs de cette brûlée de la cire, de cette griffée en montant aux arbres.
Vous avez des drôles de pratiques, vous, dans votre famille, quand même.
Mais parfaitement, l'été scientifique.
Allez, on se retrouve dans un instant et beaucoup de messages pour vous sur le site de la Tête au Carré pour parler donc de l'hyperparentalité.
Tu sais. Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé du rare nymphe, pris des rails en avance. Dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froide maussade. Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vives que ivres sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents sur la piste d'argent. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et faite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché le manuel torturé de cette danse exaltée. J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses. Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues, avec cet air déjà vu et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et faite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et faite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Danse. Jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Regarde, lui de paillettes et me réduit au chaos.
Est-ce que ça va, maman? T'as l'air un peu fatiguée. Personne ne nous dit jamais qu'on va perdre ses enfants. Et même si tu es devenue une jeune fille merveilleuse et superbe, la petite fille dont je devais démêler les cheveux en pagaille, celle qui faisait des cauchemars et qui courait se réfugier dans mon lit, elle est plus là. Et bien sûr, pour ne rien arranger, ta petite sœur entre au CP. Je perds mes bébés.
Je serai toujours ton bébé. Je suis ta fille et toi, t'es ma mère. Maman, pleure pas.
Je suis désolée. Je peux encore t'appeler mon bébé, hein?
Pas en public.
D'accord.
Extrait de la série Big Little Lies pour parler de l'hyperparentalité avec Bruno Humbeck et Béatrice Kammerer. Vous avez beaucoup réagi à ce qu'on vient d'entendre, Bruno Humbeck. Un commentaire là,
oui, parce
sur
que
cet
extrait, bien, c'est bien, ça montre bien ce qu'est le parent curling. Le curling, c'est un sport dans lequel on lance un palet, puis vous avez des gens qui frottent pour que le palet arrive le plus proche possible de la cible. C'est pas très amusant à regarder. Parce qu'on sait d'ailleurs que ce frottement ne sert pas à grand-chose. L'éducation, c'est lancer, lâcher dans un geste harmonieux. Ce n'est pas frotter. On sait que cette influence qu'on a sur la trajectoire est finalement très très faible. Ici, on a affaire à une maman qui a lancé, qui a lâché, l'enfant avance, et il faut pouvoir avoir ce geste de lâcher. L'hyperparent a parfois du mal parce qu'il veut contrôler jusqu'au bout. Et c'est un peu compliqué pour lui, c'est ce qu'on entend.
Ça vous plaît l'image du curling, Béatrice Kammerer?
L'image du curling, oui, pour moi ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, on a l'illusion de la liberté, parce que le palais va, mais quand même on essaye de faire plein de choses parce qu'on veut garder le contrôle. Donc c'est vraiment ce mouvement paradoxal entre lâcher, se rendre compte que l'enfant est quand même un individu qui va faire un peu ses choix, même à chaque âge, à mesure de ses possibilités, mais qu'on n'a qu'une marge de manœuvre très limitée.
Il y a ce témoignage de Mélanie sur franceinter.fr. Je me reconnais tellement dans ce que vous dites, je fais tout à l'envers alors que j'aime mes enfants plus que tout au monde. J'ai tellement peur qu'ils échouent et qu'ils souffrent. Résultat, ce matin, il me dit qu'il ne veut plus vivre ici, chez nous, et je ne sais plus quoi faire.
Alors, c'est vraiment important de répondre à ce type de témoignage, parce que ce que Mélanie exprime, il faut d'abord, toujours quand on a affaire à l'hyperparentalité, insister sur la qualité de l'intention. On voulait bien faire. On a voulu parfois trop bien faire. Et quand on insiste sur la qualité, l'orthorexie alimentaire, par exemple, c'est par délégation, c'est-à-dire je veux absolument qu'il ne mange que des choses bonnes pour sa santé. Ça devient une dérive quand ça crée de la pression excessive sur l'enfant ou que l'adulte se met une pression excessive. C'est sans doute ce qui se passe pour le moment. Donc, je pense que pour aider quelqu'un qui vivrait ce type de situation, l'aider à s'enlever la pression tout en gardant ses intentions positives.
Ouais, mais on sent la peur du détachement aussi, la peur du départ de ce fil là qui se détend. Et c'est une peur beaucoup des parents, ça aussi, Béatrice Caméraire.
C'est en tout cas une des questions qui se prépare dès l'enfance et qui s'expose à l'adolescence. Parce que, comme on disait tout à l'heure, l'adolescence est finalement une crise parentale. Et la perspective de réaliser que nos enfants ne sont pas nos enfants, selon la formule de Khalil Gibran, c'est quelque chose qui parfois fait mal, mais qui nécessite de quand même d'y penser. Dans le témoignage de cette maman, peut-être que cet enfant ne prend pas cette décision contre elle, mais pour lui. Et ça, c'est quand même une belle chose.
Il y a ce témoignage d'un couple d'auditeurs qui a un magasin de jouets à Paris. Nous sommes très exigeants, nous écrivent-ils, avec les produits que nous vendons. Cependant, nous sommes surpris de rencontrer des parents extrêmement angoissés au moment même d'acheter un jouet. Ils se posent 1000 questions, recherchent surtout des jouets qui vont apprendre quelque chose à l'enfant, comme si jouer tout simplement n'y suffisait pas. Béatrice Caméra, je sais que ça vous passionne,
Oui, c'est un peu l'hypocrisie, mais non, c'est la recherche de la rentabilité à tous les moments. Et c'est vraiment
le jeu intelligent.
Là, je citerai bien quand même l'ouvrage de Martine Cour, la sociologie des enfants qu'elle a publié il n'y a pas très longtemps, où elle montre justement que c'est quand même un peu un comportement des classes favorisées qui rentabilise dans ses voyages, dans ses loisirs, évidemment dans ses jeux, l'apprentissage et qui est très adapté à l'optimisation scolaire. Alors que dans les familles de milieux plus populaires, on les analyse souvent un peu en négatif, mais en fait, c'est complètement assumé. Pour eux, un jeu, ça doit être divertissant. Il est hors de question que ça ressemble à quelque chose qui ressemble en fait à l'école. Donc finalement, ils sont beaucoup plus détendus, ils sont beaucoup moins dans cet excès d'hyperparentalité, parce que non, il ne faut pas qu'un jeu ressemble à l'école, clairement, oui.
Ouais, Bruno Abeck.
Mais tous les jeux ont une fonction éducative, donc ça ne m'étonne pas effectivement qu'on cherche de nouveau le principe du parent drone, c'est je veux le meilleur jeu, celui qui va permettre d'aller le plus vite. Et le problème, c'est cette pression, par exemple, à la précocité. Ça, c'est catastrophique. Vouloir qu'envoyer un parent parce que son enfant marche à 9 mois,
c'est ça.
Il est super content. Il faut savoir qu'Usain Bolt
et à 18 mois, ça devient très inquiétant.
Usain Bolt a marché après les autres, il a couru plus vite à un moment donné. Donc la précocité n'affirme pas la compétence ultérieure. Or, beaucoup de parents, parce qu'ils sont tétanisés par cette angoisse que ça ne vienne pas, sont à l'affût de la progression de l'enfant, de moindres indices de progression. De nouveau, si c'est fait de manière amusante, ça pose pas de problème. Quand ça crée une tension, une pression importante, soit sur l'enfant, obligé de progresser, obligé effectivement de transformer tous ces jeux en exercices intellectuels valorisés par l'école, ça c'est catastrophique. Parce que l'école a tout intérêt, elle aussi, à faire rentrer beaucoup de jeux qui amusent les enfants à l'intérieur de ses murs. Puisqu'on le sait, l'apprentissage se réalise beaucoup mieux dans l'amusement que dans l'attention.
Frédéric nous dit, est-ce de l'hyperparentalité ? J'ai deux filles célibataires de 44 et 46 ans. Quand elles ne m'appellent pas au moins deux fois par semaine, j'imagine le pire.
Alors, il y a sans doute un
c'est
fond.
C'est l'hélicoptère ou le drone, là, dans ce cas-là ?
C'est un petit peu de tout. Le contrôle. Un peu de tout. Il y a un très bon, très belle métaphore de Ruffaut qui utilise le nœud marin. C'est-à-dire un nœud qui est solidement accroché, mais qu'on peut détacher facilement quand on doit partir en pleine mer. C'est ça, la métaphore de l'attachement-détachement. Ici, effectivement, ce qui est gênant, de nouveau, c'est pas que ces filles téléphonent tous les jours. Ça peut même être très sympathique. Ce qui pourrait être problématique, c'est la souffrance qui est générée le jour où elles ne sont pas en mesure de téléphoner. Si ça crée de l'anxiété et pire de l'angoisse, là, effectivement, il y a de l'inconfort. On pourra parler d'hyperparentalité inconfortable.
On pourrait dire la même chose des couples, d'ailleurs. Tout ça fait beaucoup penser à ça aussi, parce qu'il y a exactement le même phénomène. On en avait discuté, d'ailleurs, avec vous. Béatrice Caméraire.
Oui, j'ai l'impression que si on est déjà face à des parents qui réfléchissent à ça, qui en ont pris conscience, qui sont en mesure peut-être de négocier, puisqu'on est avec des enfants adultes, de dire écoute, moi j'ai peut-être des inquiétudes, comment est-ce qu'on peut faire pour que pour toi ce soit pas hyper envahissant et moi en même temps je me fasse pas des cheveux blancs. Donc là on peut aussi construire une relation d'adulte à adulte, même si on peut rester parent toute sa vie, pour expliciter ça et dépasser le cap de l'hyperparentalité par le dialogue.
Jocelyne dit, que dire des adolescents devenus adultes et que les parents continuent de protéger, conseiller, financer en grande partie pour leurs projets?
Alors, de nouveau, l'adolescent, ben, c'est l'épreuve, non pas de l'adolescent lui-même, mais de son parent. Donc, le parent, parfois pressé que l'adolescent devienne quelqu'un, le rassure, effectivement, dans son devenir. Ça va créer ben, cette fameuse crise adolescente, qui est généralement celle du parent. L'adolescent, lui, il est pressé d'une chose, c'est de prendre son temps. Il a d'ailleurs inventé une capacité remarquable de s'ennuyer sans que ce soit un problème pour lui. Il a appelé ça le glandage. Mmh. Et ça va mettre en difficulté le parent, mais c'est une reprise de développement indispensable pour l'enfant, que bah, l'hyperparent parfois vit difficilement. Donc il faut permettre, ouais. Là aussi, moi je dis souvent en consultation, je dois m'arranger pour rendre le parent supportable à l'adolescent et inversement. Ça veut dire qu'on doit non pas envahir la planète de l'adolescent comme des envahisseurs, mais la visiter comme des ethnologues. Qu'est-ce qui t'intéresse, sans vouloir absolument peupler de ses propres centres d'intérêt, de ses propres valeurs, de ses propres préoccupations.
Charlie nous dit dans l'émission sur l'hyperparentalité, on n'entend que des témoignages de femmes. Quid des pères?
Ah oui, mais les pères prennent pas la parole de la même manière. Parce que soit ils se sentent pas légitimes, soit ils considèrent que bon, il n'y a pas forcément matière à discussion. Mmh. Est-ce qu'il y a des hyper-pères Oui, vous avez l'air de dire que oui, hein, dans votre livre, beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a surtout des hommes qui essayent de soutenir leurs femmes. Et parfois, c'est difficile et compliqué, mais ils essayent de plus en plus. Et on espère que ça continue aussi, parce que on n'est pas encore à l'égalité non plus.
Isabelle nous dit, je suis en colère en vous écoutant parce que mon fils aîné, qui a vu plusieurs psychologues dans son enfance, qui me disait au bout de quelques séances, il va très bien, alors qu'à son adolescence, là où les choses se révèlent souvent, il nous a fait des fugues, des tentatives de suicide, des problèmes d'addiction. Donc il faut quand même savoir écouter les parents, dit Isabelle, car ils savent mieux que quiconque comment va leur enfant.
Alors, c'est partiellement vrai, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir écouter les parents, ça c'est une vérité absolue, mais on doit aussi parfois sortir du système, ce que font très bien les Simpsons, pour regarder comment ils fonctionnent. Quand un adolescent veut par exemple fuguer, le tout n'est pas de le ramener à la maison, mais de comprendre et de concevoir pourquoi un milieu a été perçu par lui comme invivable, alors qu'il est généralement pétri de bonnes intentions. C'est ça qui, dans l'hyperparentalité, est parfois difficile à concevoir, c'est que plus les intentions sont positives, moins parfois on obtient les résultats qu'on souhaiter obtenir, et donc enlever la pression, se permettre de respirer. Par exemple, le rapport aux écrans, on le voit dans les familles comme étant quelque chose qui est réellement devenu problématique, puisqu'il y a un fossé générationnel. Quand ça devient un rapport obsessionnel problématique, là, ça crée énormément de tensions dans la relation éducative.
Comment sortir de l'hyperparentalité? Faut-il en sortir par tous les moyens ou pas, Patrice Caméra?
Moi, je pense quand même qu'il est nécessaire pour les parents de se rendre compte des pressions auxquelles ils sont soumis. Parce que c'est difficile. Moi, l'injonction lâcher prise, je ne l'envisage pas. On ne peut pas dire à quelqu'un « détends-toi ». Ça ne fonctionne pas. C'est comme « surtout ne pense pas à cet éléphant rose ». Ça ne marche pas. Donc, peut-être se rendre compte depuis la grossesse jusqu'à chaque étape, parce que c'est dans la petite enfance, auprès du médecin, auprès de l'instituteur, des attentes que chacun de ces professionnels exprime, à quoi il... pour justement dire, ben non, moi je veux pas le prendre en charge et je vais chercher du soutien autour de moi, je vais partager cette responsabilité, je vais convoquer, pas forcément la famille, mais la famille sociale, les amis, les connaissances, je partage, je discute pour abaisser le niveau de stress et se rendre compte qu'on n'est pas entièrement responsable de tout ce qui adviendra à nos enfants, aussi pour laisser la liberté de devenir qui ils sont.
Bon, on va partir avec ce message. Et puis oui, le vôtre, Benoît Hamecq.
Quelques mots, apprendre à respirer, je crois que c'est vraiment important, s'enlever la pression, mais pas avec cette injonction paradoxale, effectivement. Ça sert à rien de dire à quelqu'un « enlevez-vous la pression », on lui en met d'habitude davantage. Mais lui donner l'occasion de percevoir en quoi cette pression est souvent liée à un souci de perfection qui est absolument irréalisable et qui est peu souhaitable en éducation. L'éducation, c'est pas la puissance éducative de vouloir faire tout ce qu'on veut avec l'enfant.
Merci à tous les deux, merci aux auditeurs avec les nombreux messages arrivés pendant l'émission. Bruno Hamecq, et si nous laissions nos enfants respirer aux renaissances du livre, c'est votre éditeur, et puis Béatrice Caméreur, comment éviter de se fâcher avec la terre entière en devenant parent, ça c'est chez Belin. Merci beaucoup à tous les deux. C'est terminé pour cette tête au carré. Merci à Pierre-Yves Derolin et Antoine Téboul qui étaient à la technique. Demain, on parlera justement des addictions avec, entre autres, Laurent Carilla et William Lovenstein.
MMA Business Entreprise, interruption spéciale.
François, vous êtes dans une entreprise du Mans.
Oui, tout à fait. L'agent MMA vient de partir.
Ah, et il s'est passé quelque chose? Une catastrophe? Un accident?
Ah non, tout va bien. Il est venu estimer les risques et vérifier si l'entreprise était toujours bien couverte.
Et alors?
L'entreprise, son dirigeant et ses salariés sont bien protégés. L'agent MMA les connaît bien puisque c'est lui-même un entrepreneur d'assurance. Zéro tracas.
Zéro blabla, ouais, mais ça, c'est pas un scoop. Hein.
Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour.
Vous venez nous parler bien sûr du programme d'affaires sensibles.
Oui, alors moi je vous parlais de quelqu'un qui ne voulait pas être parent et pour cause, c'était un prêtre, Guy Desnoyers, qu'on appelle le curé du RUF et qui a tué sa maîtresse et l'enfant qu'elle portait.
Ah ben voilà.
Voilà, nous en parlerons avec notre invité Jean-Pierre Bigeot, psychanalyste et auteur du livre intitulé Le double crime de l'abbé Desnoyers, publié chez L'Harmattan.